Chapitre 6 L'inconnu du 22. La journée s'écoula monotone pour la police comme pour Coche. Cette affaire à qui la curiosité publique donnait d'heure en heure de plus grandes proportions n'avançait pas. En dehors du nom de la victime, on ne savait rien. Les commerçants du quartier, interrogés, se souvenaient vaguement d'un petit vieux tranquille, peu bavard, et à qui on ne connaissait ni amis ni parents. Il vivait là depuis plusieurs années, sortant peu, parlant moins encore, et ne recevait de lettres qu'à de très rares intervalles. Le facteur ne se rappelait pas avoir sonné chez lui depuis des mois. Même, ajouta-t-il, je n'ai pas osé lui porter de calendrier au 1er janvier. On ne peut vraiment pas demander des traînes à quelqu'un qu'on ne sert jamais. Quant à Onésime Coche, il s'énervait dans l'attente. Il aurait voulu à la fois brusquer les événements et retarder leur cours. Il commençait à se rendre compte des complications formidables qu'il avait apportées dans son existence et voyait, sous des aspects moins brillants, les résultats utiles qu'il tirerait de l'aventure. Le certain, pour l'instant, c'est qu'il vivait en errant, n'osant s'arrêter nulle part, incapable de se renseigner, tenaillé du désir impérieux de revoir les lieux du crime comme un véritable criminel. Et, ajoutait-il, ce ne serait pas déjà si bête. On a sûrement établi une souricière autour du boulevard Lannes. Et parmi la foule qui défile devant la maison, il y a autant d'agents bourgeois que de badauds. On me connaît. Le monde, avec l'allure mystérieuse de ses articles, gêne la police. Et on ne manquerait pas de me filer. Tout irait grand train après cela. Mais la seule pensée du contact définitif avec la sûreté l'effrayait. La solitude totale dans laquelle il vivait depuis 2 jours lui avait enlevé cette énergie, cet allant qui en faisait, quand l'affaire l'intéressait, un reporter incomparable. Il avait besoin pour agir de l'influence du milieu, de la griserie des paroles, de la discussion, de la lutte, de l'activité trépidante de tous les instants. Privé de cet excitant, il se sentait sans force, hésitant. Noyé dans la foule, frôlant à chaque pas des inconnus, s'asseyant solitaire aux tables de café ou de restaurant, n'entendant qu'à de rares intervalles, quand il faisait son menu ou commandait une consommation, le son de sa propre voix, il avait, libre encore dans Paris et coudoyant des milliers d'êtres, l'impression poignante d'être au secret dans la plus sûre et la plus silencieuse des prisons. Vers 5 heures, il téléphona au Monde. On lui répondit d'abord que le Monde n'était pas libre. Il attendit un moment et appela de nouveau. La ligne était très encombrée. Des bribes de phrases lui arrivaient confuses, traversées par la voix nasillarde des demoiselles s'envoyant des numéros d'appel. Et tout à coup, parmi tout ce bruit, toute cette friture, il entendit quelqu'un qui disait « Le journal Le Monde ?» Il se pencha vivement sur la plaque et protesta. « Oh pardon, monsieur, pardon, j'ai demandé avant vous. Désolé, mais c'est moi qu'on a servi. Allô, Le Monde ? Oh, c'est un peu violent. Allô, mademoiselle ?» On criait à l'autre bout du fil. Il trépigna de rage. « Allons, mademoiselle, nous sommes 2 sur la ligne. »« J'entends bien, mais c'est pas de ma faute, retirez-vous. »« Non, non, voilà un quart d'heure que j'attends, j'en ai assez. Passez-moi le surveil. » Il n'acheva pas sa phrase, et décrochant sans bruit l'autre récepteur, se mit à écouter. La conversation lui arrivait subitement distincte. Il entendait les questions et les réponses. Jamais la ligne lui avait semblé aussi tranquille, et jamais, surtout, conversation ne l'avait plus intéressé que celle-là. La voix qui lui avait parlé un instant disait « Oh, c'est fâcheux, à quelle heure vient-il d'habitude ?» Et une autre voix, qu'il reconnut pour celle du secrétaire de la rédaction, répondit Oh, vers 4h30, 5h, mais il faut pas compter. Oh, comme c'est ennuyeux, reprit la voix. Savez-vous où on pourrait le trouver? Mais où diable ai-je entendu cette voix-là? Disait Coche. Non, non, pas du tout, répondit Avio. Enfin, viendra bien dans la soirée. Assoyez assez mal pour le prier de passer chez moi. Une communication urgente. Oh, tout à fait impossible, je suis désolé. Mais il est absent, et j'ai pas du tout. Eh, songea Coche, en appuyant fortement les récepteurs sur ses oreilles. Mais quand revient-il? Fit la voix. Ben, je ne sais pas. Son absence peut se prolonger. Il peut revenir bientôt. Il n'a pas quitté Paris. Je ne peux pas vous renseigner sur ce point. Je suis désolé, tout à fait désolé. Ah, ça, songea Coche de plus en plus attentif, mais c'est de moi qu'on parle. Et cette voix... Ah, ne coupez pas, mademoiselle, nous causons, cria Avio. Et Coche, terriblement intéressé par ce dialogue, cria machinalement aussi, « Nous causons !» Et aussitôt, il se mordit les lèvres. Un simple hasard, très fréquent, mais qu'il bénissait dans cet instant, l'avait mise entière dans une conversation qui pouvait se rapporter à lui. C'était folie de l'interrompre par une exclamation maladroite. La téléphoniste par bonheur avait quitté la ligne et n'entendit pas son appel. Le dialogue continua. « En tout cas, disait la voix, vous pouvez me donner son adresse. »« Oh, parfaitement. Ai-je des chances de le trouver chez lui ?»« Oh, nom d'un chien, murmura Coche, je me trompais pas. C'est le commissaire. » Un petit frisson le secoua. Ses doigts se crispèrent sur les récepteurs et il se sentit pâlir. Pourquoi le commissaire insistait-il tellement pour le voir, pour savoir son adresse, sinon afin de... Ah, il n'osa formuler même mentalement la fin de sa phrase. Mais le mot qu'il redoutait se dressa devant lui avec une force, une honnêteté prodigieuse. « M'arrêter, je vais être arrêté !» Le recul n'était plus possible. Il en avait trop fait pour hésiter, même un instant. Les 3 journées écoulées avaient fui avec une rapidité si vertigineuse qu'il n'avait pas senti passer le temps. Et il lui sembla qu'il allait être pris au piège dans une seconde. Il eut l'espoir que le secrétaire de rédaction ne répondrait pas. Il aurait voulu crier « Mais taisez-vous, ne dites pas mon adresse !» Mais c'était là se compromettre gravement, car en somme, s'il voulait bien être arrêté, interrogé, accusé, il tenait à garder le pouvoir de faire s'écrouler d'un seul mot toutes les charges relevées contre lui. Or, comment pourrait-il expliquer ce cri d'angoisse? La voix poursuivit. « Bon, je ne sais pas si vous le trouverez chez lui, mais voici son adresse. » Un dixième de seconde, la pensée qu'il ne s'agissait pas de lui traversa l'esprit de Coche. Déjà, Avio continuait. « 16, rue de Douai. Merci bien, pardon de vous avoir dérangé. »« Oh, il n'y a pas de quoi. Au revoir, monsieur le commissaire. Au revoir, monsieur. » Coche entendit claquer les crochets, résonner la sonnette avertissant que la communication était finie. Un petit bruit de friture, puis plus rien. Pourtant, il restait là, l'oreille tendue, attendant, espérant, redoutant, il ne savait quoi, cloué sur place par une émotion intense. Il ne reprit la notion exacte des choses qu'au bout de 2 ou 3 minutes. Alors, percevant ce bourdonnement confus, pareil à celui qui résonne avec un bruit de flot dans les larges coquilles marines, il comprit que la conversation était finie et qu'il n'avait plus rien à faire là. La main sur le bouton de la porte, il hésita. Et s'il y avait quelqu'un derrière? Et si une main venait s'abattre sur lui? Le souvenir de son innocence n'effleurait même plus sa pensée. Une seule chose y demeurait, son arrestation probable, certaine. À bien y réfléchir, il pouvait, au risque de passer pour un fantoche, avouer la vérité. Tout au plus risquait-il quelques jours de prison avec sursis, ou simplement une admonestation un peu sévère et humiliante. Mais cela même, il ne le pouvait plus. Il était hypnotisé, fasciné par cette idée fixe « Je vais être arrêté ». Et cette pensée, qui l'effrayait cependant, l'attirait, l'amenait à elle avec une puissance obscure et formidable, effrayante, comme le gouffre sur qui se penche le voyageur, tentatrice comme l'aspect voluptueux des sirènes qui, la nuit dans les détroits sonores, entraînaient les marins vers l'abîme. Il sortit enfin. Personne ne fit attention à lui. Seul l'employé derrière son guichet lui dit « Il y a deux communications. »« Ah bien, » fit Coche. Et il donna un second ticket, sans faire observer qu'il n'avait pas causé un seul instant. Au moment de gagner la rue, il eut une courte hésitation. « Mais tout de même, si je téléphonais au monde ?» Mais il pensa qu'à présent, toute démarche était devenue inutile, et gagna la rue, cherchant les raisons qui avaient pu mettre aussi vite la police sur ses traces, un peu vexé au fond, de n'avoir pas eu besoin de plus d'adresse et de ruse pour l'amener à regarder de son côté. En quittant l'appareil, le commissaire traversa une petite salle où se réunissaient les inspecteurs. L'un d'eux, assis devant une table, paraissait plongé dans un travail très important. « Dites-moi donc, fit le commissaire, est-ce très urgent ce que vous faites là ?» L'homme sourit. Très urgent, non, mais plutôt ce sera fini, mieux ça vaudra. Je cherche dans l'annuaire des rues de rapport au papier trouvé ce matin. Ça ne coûte rien d'essayer. Eh bien, laissez donc ça un instant. Prenez une voiture et voyez si M. Onésime Coche est chez lui, 16 rue de Douai. Rue de ? Fit vivement l'inspecteur. « Rue de Douai, 16, vous savez où c'est ?»« Oui, ce n'est pas ça qui m'étonne, c'est ce numéro 16 et puis rue de... » Le commissaire tressaillit à son tour. Ce numéro auquel il n'avait prêté aucune attention tout d'abord sembla prendre une signification. N'était-ce pas celui qu'il avait lu le matin même sur le bout d'enveloppe ramassé boulevard Lannes? Il regarda l'inspecteur le regarda, et tous deux demeurèrent ainsi quelques secondes, n'osant formuler le doute qui brusquement les avait traversés. « Allons, » dit le commissaire en haussant les épaules, « qu'est-ce que nous cherchons? C'est par ce procédé-là qu'on se met dedans. Une idée passe, on saute dessus... On ne lâche plus, on s'entête, et rien du tout. Si vous vous mettez à regarder de côté tous les gens qui habitent à un numéro 16... Je ne dis pas, mais ça me fait drôle. Allez, je pars tout de suite. Parce que dès le matin, il n'avait attaché aucune importance à ce chiffre, et que maintenant, il n'avait pas relevé la coïncidence, assez bizarre en somme, le commissaire ne voulut pas paraître faire quart du soupçon de son agent. Mais, resté seul, il regretta de n'avoir pas fait, lui, la découverte du papier et de n'avoir pas vu le rapprochement possible. Il n'y attachait encore aucune valeur. Quelle vraisemblance que Coche fût mêlé à cette affaire. Fallait-il, pour une simple concordance de chiffres, échafauder tout un roman. Il rentra dans son cabinet en se disant « Non, c'est absurde. » Mais, si absurde qu'il jugea la chose, il ne put la chasser de son esprit. Elle restait en lui, et sa pensée y revenait sans cesse. Il prit un dossier et le parcourut. En arrivant au bas de la première page, bien qu'il fût certain d'en avoir lu toutes les lignes, il s'aperçut que les mots n'avaient fait que traverser ses yeux. De leur signification, nul souvenir. À leur place, le chiffre 16 dansait devant lui, et insensiblement, les traits d'Onésime Coche s'y joignaient, d'abord assez vagues, puis tout à fait précis. Peu à peu, une foule de petits détails se glissait dans sa mémoire. D'abord, l'information étrange du monde, information dont il n'avait pu trouver la source. Puis, les phrases énigmatiques de Coche, son attitude ironique jusqu'à l'insolence, ses réponses mystérieuses, la découverte de la trace des pas, son émotion dans la chambre du crime. Il y avait là, jusqu'à un certain point, des indices. Mais si le journaliste avait joué un rôle quelconque dans le crime, comment admettre tant d'audace? Et pourtant... Arrivé à ce point de son raisonnement, il se sentait arrêté, un obstacle barrait sa route, et il n'osait s'avouer à lui-même qu'il s'irritait autant de n'avoir pas le premier pensé à tout cela que de l'impossibilité où il se trouvait d'assigner un mobile aux actes de Coche. Au reste, dans quelques minutes, il allait être fixé. Sans lui laisser soupçonner le doute qui avait effleuré son esprit, il lui ferait comprendre ce qu'il y avait de gênant dans son attitude. Qu'il en sût long sur le crime, il en était sûr à présent. La difficulté ne serait pas de lui faire dire ce qu'il savait, mais bien comment il le savait. Coche ne lui avait-il pas déclaré « La presse possède des moyens d'investigation multiples. » Quels avaient été ces moyens? Voilà ce qu'il importait de connaître, et pour y arriver, il ne reculerait pas devant l'intimidation. Il ne se souciait plus qu'à présent de l'allusion à l'empreinte de pas faite dans le monde. La partie était engagée à fond, et Coche seul pouvait apporter la victoire. Aussi bien l'affaire allait passer aux mains d'un juge d'instruction, et il aurait voulu la lui remettre toute simple, dégagée du mystère qui l'entourait depuis la première heure. La sonnerie du téléphone retentit. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda-t-il. « C'est Javel, l'inspecteur que vous avez envoyé rue de Douai. Bon, eh bien, Monsieur Coche n'a pas reparu chez lui depuis 3 jours. » Une stupéfaction violente se peignit sur le visage du commissaire. Ainsi, depuis 3 jours, pas plus au journal qu'à son domicile, on avait vu le reporter. Si invraisemblable que parut la chose, il fallait se résoudre pourtant à accorder à cette disparition des raisons graves. Or, étant donné les événements, leur succession rapide et mystérieuse, une raison grave ne pouvait être qu'une raison se rapportant au crime du boulevard Lannes. Dès lors, 2 hypothèses se présentaient. Ou bien Onésime Coche avait fait semblant de disparaître afin de poursuivre seul et pour son compte une enquête parallèle à celle de la police, ou bien il avait été mêlé d'une façon quelconque au drame, et alors 2 solutions se présentaient de nouveau. La première, assez favorable, il avait mis quelques centaines de kilomètres à la frontière entre lui et la police. La 2e solution, se rapprochant peut-être de la vérité, des gens ayant intérêt au silence et craignant qu'un mot imprudent de sa part ne les perdît, l'avait simplement supprimé. Toujours, d'après la même méthode hâtive et fantaisiste, le commissaire s'arrêta à cette dernière version. Il se pencha sur la plaque et dit à l'inspecteur « Pas d'autres renseignements ?» L'inspecteur ne répondant pas tout de suite, il insista « Allô, vous m'entendez ?» Oui, monsieur le commissaire, c'est tout. Alors, c'est bien, je verrai moi-même demain matin. » Et il raccrocha les récepteurs. Demain matin, mon bonhomme, songea l'inspecteur, tu arriveras probablement après la bataille, car demain, si Coche n'est pas entre mes pattes, il ne s'en faudra pas de beaucoup. Il n'avait pas tout dit, en effet, au commissaire, se réservant de travailler son idée à lui. Trop jeune dans le métier pour qu'on écoutât ses avis, il entendait suivre son inspiration personnelle. Depuis la découverte du morceau d'enveloppe, il avait eu la sensation que la partie devait se jouer autour de ce bout de papier, et cette sensation vague d'abord s'était tout à coup précisée lorsqu'il avait entendu le numéro de l'adresse de Coche. Il regretta presque d'avoir laissé deviner son émotion devant le commissaire, mais se consola de ce manque de sang-froid, sachant son chef trop orgueilleux pour adopter la manière de voir d'un simple inspecteur. Bien mieux, ce qu'il avait considéré un instant comme une maladresse lui apparut comme une suprême habileté. Le seul fait qu'il avait établi un rapport entre les deux 16 l'assurait que le commissaire n'y attacherait pas la moindre importance, tout au contraire. Dès lors, il pouvait travailler en paix, sans contrôle, sans discussion. Javel, on l'a vu, se trompait. Mais le résultat ne différait pas beaucoup, cependant, grâce aux déductions précipitées du commissaire. Tandis que son chef interprétait les événements, lui se bornait à les constater. Aussi bien la découverte du matin et le renseignement recueilli au domicile de Coche n'étaient-ils rien auprès de celui qu'il conservait précieusement, l'ayant obtenu avec une rare facilité. En descendant la rue de Douai, ses yeux s'étaient portés machinalement sur le numéro d'une maison. Il lut 22. Le hasard, décidément, voulait que ce chiffre revînt devant lui, et il considérait le hasard comme un trop grand maître pour ne pas suivre ses indications. Il réfléchit très vite que, s'il se trompait, nul n'en saurait jamais rien, que la démarche tenait ni longue ni compromettante, et il entra. La loge de la concierge se trouvait sous la voûte. Il entr'ouvrit la porte. « Monsieur Onésime Coche, s'il vous plaît. » « Connais pas. » Il prit un air désappointé et insista timidement. « C'est un journaliste. Vous ne pourriez pas me dire... » Le concierge qui se chauffait les mains hocha la tête sans se retourner. Mais sa femme sortit d'une pièce voisine et s'enquit de ce qu'on voulait. Javel, la devinant complaisante, ou tout au moins curieuse, répéta « Oh, c'est un journaliste, monsieur Onésime Coche. On m'a dit qu'il habitait ici, on a dû se tromper d'adresse. Et je voudrais savoir si vous ne pourriez pas... » Le mari haussa les épaules, la femme s'avança. « Ben quoi, tu ne te souviens pas ?» Et s'adressant à l'inspecteur, elle ajouta « Nous n'avons pas de locataire de ce nom, mais nous avons eu un journaliste qui a quitté il y a 6 mois. Depuis 2 ou 3 fois, le facteur s'est trompé et il a déposé des lettres au nom que vous dites. » Et se tournant vers son mari, « Mais tu te rappelles, il n'y a pas un mois, il en a porté une, voyons. Donc si ce ne serait pas des fois au 16 ou au 18 ?» Javel s'excusa du dérangement, remercia, et dans la rue donna libre cours à sa joie en disant presque haut : Veine, veine, je le tiens !» Un monsieur qu'il bouscula au passage se retourna et grommela ben, « Il est fou, celui-là » L'inspecteur était si content qu'il ne l'entendit même pas. Il entra rapidement au 16 et demanda « Monsieur Coche, oh, il n'est pas chez lui. Savez-vous quand il rentrera ?»« Oh non, il a dû partir en voyage. »« Diable !» murmura Javel, « voilà qui est bien ennuyeux. Alors, vous ne pourriez pas me dire quand il sera de retour ?»« Non, pas laisser un mot, on lui remettra avec ses lettres et qu'il attend depuis 3 jours. » « 3 jours, songea Javel, est-ce que je tiendrai le bon bout par hasard ?» Et il ajouta, comme se parlant à lui-même, « Oh, il laissait une lettre, peu fou !» Puis, réfléchissant qu'il y avait peut-être des renseignements à glaner, et que, tout en écrivant, il pourrait faire parler le concierge, moins défiant vis-à-vis d'un monsieur assis dans sa loge, qu'envers un visiteur debout sur le bas de sa porte, il répondit « Oui, si ça ne vous dérangerait pas, j'écrirai bien un mot. »« Oh, du tout, asseyez-vous, vous avez de quoi écrire. »« Oh non, » fit-il. Quand on lui eut apporté plume, encre et papier, il s'assit devant la table et commença à écrire une vague lettre de sollicitation se disant journaliste, sans situation, acculé à la misère, et priant son confrère de lui venir en aide. Arrivé au bas de la page, il s'arrêta, prit sa feuille de papier par le coin, et l'agita en l'air pour la sécher. « Un peu de buvard ?» demanda la concierge. « Oh, mais madame, je vous dérange. Ça ne fait rien. Une enveloppe ?» « Oui, s'il vous plaît. » Tout en séchant avec soin son écriture, il demanda « Monsieur Coche, ne vous avez pas prévenu de son départ ?»« Non, sa femme de ménage est venue avant-hier, comme d'habitude. Elle ne savait rien et m'a demandé la même chose que vous. Elle revient tous les matins pour donner un coup au ménage, mais elle n'a pas de nouvelles. » « C'est surprenant parce que d'ordinaire, toutes les fois qu'il s'absente, il ne manque pas de dire « Madame Isabelle, je pars pour tant de jours, je rentrerai lundi ou mardi, enfin, tout ce qu'il faut pour répondre en cas qu'on vienne le demander. » Javel, la plume en l'air, écoutait. Pour lui, ce départ prenait de plus en plus l'aspect d'une fuite, et en rapprochant l'extraordinaire coïncidence du 22 et du 16, il ne pouvait s'empêcher de relier cette disparition à l'affaire du boulevard Lannes. La concierge parla encore, disant l'existence régulière de Coche, les heures auxquelles il sortait et rentrait. Mais tout cela, pour l'instant du moins, était sans importance. À un moment pourtant, le policier dressa l'oreille. « La dernière fois qu'il a couché ici, disait-elle, il est rentré vers les 2 heures du matin, comme d'habitude. On ne reconnaît pas bien les voix la nuit, mais je sais sa façon de fermer la porte. Tout doucement, sans bruit, il y en a d'autres qui la tapent à réveiller toute la maison. Sur le coup de 5 heures, quelqu'un est venu le demander. » Oh, cette personne n'est pas restée longtemps chez lui, car 5 minutes après, elle a demandé le cordon, et au bout d'un instant, M. Coche est sorti à son tour. Je pense qu'il a été appelé dans sa famille, près d'un malade. Son père et sa mère habitent la province. C'est possible, songea l'inspecteur, mais ce n'est que possible. Il y a vraiment trop de coïncidences dans tout ça. Il se remit à écrire, signa d'un nom quelconque et cacheta l'enveloppe. La concierge avait dit tout ce qu'elle savait, il n'y avait plus rien d'utile à en attendre. Peut-être la femme de ménage serait-elle renseignée. Il se leva. Vous seriez bien aimable de lui remettre ceci avec son courrier. Comme c'est assez urgent, je repasserai demain matin vers 9 h, si par hasard il était de retour. Oh, c'est ça, monsieur, vous trouverez toujours sa femme de ménage. Il remercia et sortit. Pour lui, il n'y avait plus aucun doute. Le destinataire de la lettre déchirée, trouvée boulevard Lannes et Onésime Coche, ne faisait qu'un. Maintenant, fallait-il voir dans le départ précipité du journaliste, la nuit même du crime, plus qu'une simple coïncidence? C'était une autre affaire et qui dépendait à être examinée sans nerfs et de très près. Dans cette pensée, il téléphona au commissaire le résultat de sa démarche, en se bornant à répondre à la question précise qui lui avait été posée. On l'avait envoyé 16 rue de Douai pour s'informer si Coche était chez lui. Coche n'y était pas. Il n'avait rien à ajouter pour l'instant. Le reste lui appartenait en propre, à lui de s'en servir. Javel avait pour habitude, lorsqu'il recherchait un individu, de se demander non pas ce que lui pouvait trouver de plus intelligent, mais bien ce que son adversaire pourrait trouver de plus bête ou de plus maladroit. Or, la pire faute pour Coche coupable était de revenir à son domicile. De là à admettre la probabilité de cette faute, il n'y avait qu'un pas. Lorsqu'un homme a le choix entre deux solutions, il est rare, surtout s'il redoute la police, qu'il choisisse la bonne. La prudence la plus élémentaire conseillait au journaliste de ne pas reparaître rue de Douai. C'était donc rue de Douai qu'il convenait de l'attendre. Ayant ainsi raisonné, Javel se posta à quelques pas de la porte et attendit. Chapitre 7. De 6 h du soir à 10 h du matin. En sortant du bureau de poste, Onésime Coche reprit possession de lui-même. Depuis 3 jours, il n'avait rien vu, rien appris que l'angoisse d'un homme traqué. C'était là non du reportage, mais de la littérature. Alors qu'il aurait voulu tout savoir, il ignorait tout et comprenait que l'ignorance devait être pour un vrai coupable un grave motif d'énervement. De plus, détail qui avait sa valeur, il n'avait pas changé de linge. Son faux col douteux le gênait, ses manchettes étaient sales, il se sentait mal à son aise. À sa gêne morale s'ajoutait une gêne physique. Il résolut d'aller chez lui après l'extinction du gaz pour ne pas être vu par la concierge, et vers minuit s'arrêta devant sa porte. Javel, qui s'était rapproché doucement, eut en le reconnaissant un sourire de triomphe. La bête venait se prendre au piège. Il reprit sa faction, ne perdant pas de vue l'entrée. Des agents, le voyant regarder la maison avec insistance, lui dirent bourru: Qu'est-ce que vous attendez là? Il répondit presque sans détourner la tête: Sûreté. Elle leur montra sa carte. Au bout d'une demi-heure, Coche n'était pas redescendu. Javel pensa: aurait-il l'audace de coucher chez lui? Après tout, s'il n'est pas coupable, si son départ n'est lié en aucune façon à l'affaire, cela n'a rien de surprenant. Il est entré avec le patron dans la chambre du boulevard Lannes et peut fort bien avoir laissé tomber des bouts de papier. Pourtant, un tel désir, un tel besoin de savoir le tenaillait qu'il ne sentait plus le froid. Les passants devenaient de plus en plus rares et le guet n'en était que plus facile. Il marchait le long en large, sûr que le journaliste ne pourrait plus sortir sans qu'il le vît. Vers 2 h, la porte s'ouvrit enfin. Coche demeura un instant immobile et referma sans bruit. Javel le vit hésiter, puis faire un pas, regarder à droite et à gauche, et enfin partir droit devant lui. Il lui laissa prendre quelques mètres d'avance et se mit en marche à sa suite. Ils descendirent ainsi jusqu'au boulevard, gagnèrent les quais par la rue de Richelieu et traversèrent la Seine. « Du diable, si je sais où il m'emmène !» murmura Javel en le voyant remonter dans la direction de la place Saint-Michel. « Mais où qu'il aille, je ne le lâcherai pas avant de l'avoir couché. » Coche prit le boulevard Saint-Michel et s'arrêta près du Luxembourg, semblant s'orienter. « Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» pensa Javel, il connaît sûrement le quartier. Il a l'air de ne pas savoir ce qu'il veut. Et il ajouta à mi-voix, « Allons, mon vieux, c'est l'heure de te coucher. » Juste au même moment, Coche se tourna vers lui. Leurs regards se croisèrent. Javel ne bougea pas, mais Coche tressaillit et repartit d'un pas plus rapide dans la direction de l'observatoire. Le boulevard était désert et le policier regardait sur le trottoir, sec et tout blanc, fuir l'ombre du journaliste. Cette course vers un but inconnu l'énervait. Il commençait à sentir la fatigue, le froid. Par instant, il éprouvait la tentation de sauter sur Coche et de lui mettre la main au collet. Mais s'il était innocent, quelle faute ! C'était la révocation, le scandale. Il continuait donc à marcher, les poings serrés, mâchant sa rage. Coche finirait bien par entrer dans une maison. Il lui faudrait encore attendre jusqu'au jour par cette nuit glaciale avec le ventre creux, les pieds gelés, les doigts engourdis. Tout à coup, une voix derrière lui fit doucement « Bonsoir, Javel !» Il se retourna et reconnut un collègue de la sûreté. Du coup, la gaieté lui revint. Il mit un doigt sur ses lèvres, entraîna son camarade par le bras et lui dit très bas « Chut, méfiance ! Ah, tu as quelque chose ?»« Oui, là, devant nous, à 20 mètres. »« Sérieux ? Tu parles ? Je crois que je tiens. Mais je peux pas te le dire pour l'instant. Écoute, si tu es pas trop fatigué, je te propose une affaire. Prends mon homme en filature, il y a peut-être quelque chose de tout premier ordre. » Et on ne peut pas savoir. Pas maintenant, dans quelques heures, ce matin. Moi, je suis éreinté, et puis je crois que le client m'a vu et que je suis brûlé. Il ne se fiera pas de toi. Ça va ? Oh, dit l'autre, si ça te rend service. Tu veux que je le couche ? D'abord, ensuite, que tu ne te lâches pas sa porte. Demain matin, à 10 heures... Fais-moi prévenir de l'endroit où il aura fini sa nuit et de celui où je peux venir te relever. Je serai devant le 16 de la rue de Douai. Mais pour l'amour de Dieu, ne le lâche pas d'une semelle. Jamais nous n'aurons peut-être de plus belle partie à jouer. Et tu auras ton morceau de gâteau, je te le garantis, si ça réussit. Tout ça c'est bien gentil, mais je voudrais savoir tout de même... « Eh bien, » fit Javel, sentant que son camarade hésitait et qu'il fallait jouer franc-jeu pour ne pas risquer de tout perdre, « Eh bien, je file probablement l'assassin du boulevard Lannes. » Il n'était pas certain le moins du monde que Coche fût coupable, mais il se rendait compte que s'il hésitait, l'autre refuserait peut-être de marcher. L'appât d'une telle capture suffit à décider le policier, qui dit encore, tant la chose lui paraissait formidable, « Mais tu es sûr ?»« Sûr !» répondit Javel avec autorité. « Tu vois que cela vaut le dérangement. »« Ah, tu peux compter sur moi, je tiens bien. »« Et surtout, un pas de gaffe, le bougre a de l'œil et les jambes. »« Moi aussi. »« À 10 heures, quelqu'un aux nouvelles, 16 rue de Douai ?» Compris. Javel fit demi-tour et redescendit vers l'intérieur de Paris. Il était tranquille, Coche ne lui échapperait pas, et s'il s'était trompé, nul, sauf le camarade intéressé, à présent au même titre que lui, à ne pas ébruiter l'affaire en cas d'insuccès, ne connaîtrait l'emploi de sa nuit. Depuis le Luxembourg, Koch n'avait plus tourné la tête. Il allait devant lui au hasard, plus averti du danger par son instinct que par le regard échangé avec le policier. Par instant, il ralentissait sa marche pour mieux entendre le bruit de ce pas qui se mesurait sur le sien. Une seconde, lorsque les deux policiers s'étaient rencontrés, il s'était cru sauvé. À ce moment-là, s'il avait trouvé une rue transversale, il aurait fui à toutes jambes, mais bientôt le bruit de pas lui était parvenu, plus net, et il avait compris que deux hommes au lieu d'un étaient à sa poursuite. Il retrouvait dans sa course des angoisses pires que celles de la nuit du crime quand il remontait seul le boulevard désert. La même peur de l'inconnu le tenait, le même silence que rien ne traversait emplissait ses oreilles. Plus le terrain s'allongeait au-devant de lui, plus il se hâtait et moins il croyait avancer. Il sentait des regards peser sur sa nuque, devinant les voix chuchotantes, comme si l'imperceptible frisson qu'elle mettait dans l'air était arrivé en ondes sonores jusqu'à lui. Son excitation nerveuse était telle qu'il serra la crosse de son revolver, résolu à faire brusquement demi-tour et à tirer. Seule une pensée vraiment extraordinaire l'empêcha de commettre cet acte insensé, la peur de ne trouver personne devant lui et de se rendre compte qu'il était halluciné. La folie lui était toujours apparue comme un spectre effrayant, et l'idée qu'il lui faudrait se rendre compte d'une défaillance de sa raison l'épouvantait. Or, il sentait qu'il n'était plus maître de lui, et que l'horrible peur s'installait dans son cerveau, paralysant sa volonté et faussant son jugement. Bientôt, la fatigue l'envahit, cette fatigue brusque qui coupe bras et jambes, contre laquelle on sent qu'on ne pourra lutter, qui vous met du plomb aux semelles et fait tout oublier, chagrin, péril, remords. Il titubait, pris d'un besoin de sommeil impérieux, torturant comme la faim, comme la soif. Les dents serrées, l'épouvante à la gorge, il se répétait : « Allez, avance, avance !» Tout au bout de l'avenue d'Orléans, près de la barrière, il aperçut la lanterne ronde d'un hôtel. Il sonna, attendit, appuyé contre le mur que la porte s'ouvrit, demanda une chambre, se jeta tout habillé sur son lit, sans même prendre la précaution de fermer le verrou ni de tourner la clé, et s'effondra dans le sommeil comme on s'effondre dans la mort. 2 minutes plus tard, le policier, qui se souciait peu de finir sa nuit à la Belle Étoile, sonnait à son tour et, de l'air le plus naturel du monde, disait au garçon « Donnez-moi une chambre à côté de celle de mon ami qui vient d'entrer. Quand il s'éveillera, vous me préviendrez, mais ne lui dites pas que je suis là. Je lui fais une blague. » Il monta l'escalier à pas de loup et le garçon sortit, colla son oreille à la muraille. La respiration de Koch était pesante et cadencée. Alors il s'étendit sur son lit et, sûr de ne pas la manquer, s'endormit à son tour. Cette nuit-là, Koch rêva qu'il était dans une prison et qu'un gardien surveillait son sommeil. La réalité se rapprochait étrangement du rêve. Depuis quelques heures, il avait cessé d'être libre pour n'être plus qu'une bête traquée qui, peu à peu, allait sentir se rétrécir tout autour d'elle le cercle infranchissable des limiers. À 8 heures du matin, Javel reprit sa faction devant le 16 de la rue de Douai. Il aurait pu monter tout simplement chez Koch et parler à la femme de ménage. Il préféra éviter la concierge et attendit sur le trottoir qu'elle sortît. Comme il est sans exemple qu'à Paris, une concierge demeure plus d'une heure dans sa loge, surtout le matin, à l'heure où les cancans s'éveillent, il était sûr de pouvoir bientôt passer sans être vu. Quelques minutes plus tard, en effet, la concierge sortait. Il en profita pour entrer. Il ignorait à quel étage demeurait le journaliste, mais ce léger détail ne l'arrêta pas. Et sonnant la première porte venue, il demanda « Oh, monsieur Coche, s'il vous plaît !»« Ben, c'est pas ici, c'est au quatrième. Oh, je vous demande pardon !» Au quatrième, une vieille femme vint lui ouvrir. « Monsieur est là ?» fit-il du ton d'un bonhomme qui pose cette question pour la forme, certain qu'à par ailleurs, monsieur est là. « Ah non, monsieur !» il sourit. « Dites que c'est moi, il me recevra sûrement, vous n'aurez qu'à faire passer mon nom. Monsieur, mais je vous assure que monsieur n'est pas là. » « J'aurais cru. Oh, c'est bien ennuyeux. Vous savez pas quand il rentrera ?» La femme leva les bras. « Ben, je sais plus maintenant. Voilà 4 jours qu'il est parti. Il peut rentrer d'un moment à l'autre, comme il peut pas rentrer. »« C'est que, » murmura Javel, « j'aurais bien besoin de le voir. Ben, qu'est-ce que vous voulez ?» fit la femme. « Entrez, peut-être il va revenir. » « Ben oui, je vais attendre un instant. » Il pénétra dans le cabinet de travail et s'assit, se demandant comment il pourrait engager la conversation. Mais il n'eut pas à faire le moindre effort d'imagination. La femme de ménage se chargea de tout, et sans qu'il lui posât la moindre question, répéta « Oui, voilà 4 jours qu'il n'est pas rentré. C'est drôle, vu que d'habitude il s'absente jamais sans prévenir. » Il y a là pour lui des lettres, des pêches, des personnes le demandent et on ne peut pas les renseigner. Oh, peut-être est-il allé dans sa famille. Oh, sûrement non, sa valise est là. Et puis il est parti drôlement. Ah, vous l'avez vu partir? Non, quand je suis arrivé ici le matin, j'ai trouvé le lit défait. Ses habits de soirée sur une chaise, alors j'ai tout rangé, nettoyé. Comme d'ordinaire, il sort jamais avant 11 heures. Ça m'a bien un peu étonné. En rentrant chez moi pour déjeuner, je sais pas pourquoi, ça me trottait par la tête. Vous savez pas quelle idée m'est venue? Il faut vous dire qu'une fois déjà, il était parti comme ça de très bonne heure pour aller se battre en duel. Mais je me suis dit que c'était peut-être bien ça encore. « Oh, croyez-vous, je l'aurais su. Ben, à présent, je dis comme vous, mais sur le moment, ce qui me faisait croire, c'est qu'on aurait dit qu'il s'était disputé. Lui, d'habitude si soigneux, vous savez bien, puisque vous êtes son ami. Oh oui, s'empressa de répondre Javel, très soigné. Eh ben, son plastron était taché de sang et... »« Et ?» fit le policier prodigieusement intéressé. « Ben, le poignet de sa chemise était tout froissé, déchiré, et il avait perdu un de ses boutons de manchette, un de ses boutons qu'il y tenait tant. Ah oui, ces boutons en or avec des turquoises. Oh, je sais pas comment ça s'appelle. » « Enfin, » dit Javel, bégayant presque de joie, « les petites pierres bleues. « Ah, c'est ça !» Eh bien, la boutonnière était arrachée et le bouton manquait. Alors, vous seriez dit comme moi, qui s'était disputé, vu que c'était un bon garçon, mais... » Javel s'empressa d'interrompre la vieille femme. Tout ce qu'elle pouvait dire maintenant était sans intérêt auprès de ces deux déclarations formidables. Du sang sur la chemise et surtout... la disparition d'un bouton dont la description répondait à celle du bouton trouvé dans la chambre du crime. Mais encore, la chose lui semblait si prodigieuse, le hasard avait l'air de tout préparer pour lui avec une telle complaisance qu'il voulut voir et savoir tout de suite. Alors, aussi, dit-il feignant l'étonnement, êtes-vous sûr? Comment, si je suis sûr? Ben, puisque vous connaissez ces boutons, vous allez juger. J'ai gardé la chemise tout exprès, dans le cas qu'ils s'en seraient pas aperçus et qu'il aurait cru que moi je l'aurais perdue. Oh, je vais vous montrer. Elle passa dans la chambre à coucher, mais à peine y était-elle entrée qu'elle s'écria: Oh! Oh, ça par exemple, c'est trop fort! Il est venu depuis hier et il a changé de rage. L'armoire est toute sang dessus dessous. Oh, tenez dans le panier, voilà sa chemise de flanelle, elle n'y était pas hier. Diable, songea Javel, est-ce que par hasard, en venant cette nuit, il aurait fait disparaître la chemise maculée de sang et le bouton de manchette? Je sais bien que la vieille serait toujours là pour reconnaître celui que nous avons, mais ce serait moins net et moins brillant, surtout. Il la suivit dans la chambre à coucher, tout en murmurant Qu'est-ce que vous dites là, qu'il a changé de linge ici hier? Ben, je suis bien sûr de ce que je dis. Voilà sa chemise de flanelle qui ne met que pour le matin. Hier, il y avait dans le panier de linge que la chemise de soirée, avec sa tache de sang, là, et son poignet déchiré ici. Quant à l'autre bouton de manchette que j'ai retiré, ah, il est sur la cheminée. Vous voyez que je vous mens pas. On aurait mis entre les mains du policier la plus admirable des pierres précieuses, qu'il l'eût contemplée avec moins de joie et d'amour que ce bijou sans valeur. Il le tournait, le retournait, et plus il le maniait, plus il le frôlait de ses doigts tremblants, plus son œil s'allumait de plaisir, plus la certitude s'établissait en lui qu'il était identiquement pareil au bijou ramassé boulevard Lannes. Ainsi, en moins de 24 heures, guidé par un chiffon de papier portant des lettres sans suite, il était parvenu à éclaircir ce mystère qui paraissait indéchiffrable. Tant qu'il n'avait eu contre coche que le morceau d'enveloppe, il n'avait pas osé formuler son soupçon, mais là le doute n'était plus possible. Tout apparaissait avec une netteté extraordinaire. La tache du plastron et du sang qui avait rejailli, la manche déchirée, le bouton arraché, mais tout dans la chambre du meurtre n'indiquait-il pas que le vieillard s'était défendu désespérément et qu'il y avait eu lutte corps à corps? Une seule chose demeurait louche, inexplicable: l'attitude de Coche depuis la découverte du crime, son sang-froid souriant, son désir de revoir avec le commissaire le corps de la victime, sa victime. Enfin, comment expliquer qu'un garçon tranquille, heureux, honorable, soit devenu subitement un voleur, un criminel? À moins d'admettre la folie, ben, cela n'était plus de son ressort. Sur un indice que d'autres avaient jugé sans valeur, il n'avait pas craint de partir en campagne, et la piste sur laquelle il s'était engagé l'avait conduit au but avec une rapidité surprenante. Il n'en demandait pas davantage. Dans 1 heure, l'affaire serait terminée. Coche serait arrêté, bouclé, à moins que le camarade ne l'ait laissé filer. À cette seule pensée, une rage lui traversa l'esprit. Et pour se rassurer lui-même, il se répéta: Oh, c'est pas possible, il n'a pas fait ça. Maintenant qu'il savait tout ce qu'il pouvait savoir, il était trop impatient d'avoir des nouvelles de celui qu'il considérait déjà comme son prisonnier pour continuer à bavarder une minute de plus avec la vieille. Il regarda sa montre et dit: Oh, je ne peux plus l'attendre. Je m'en vais, mais je reviendrai. Et en prononçant ces mots, Je reviendrai, il sourit malgré lui. Trouvant un charme étonnant à exprimer cette pensée si simple et cependant si lourde de menaces. Sous la voûte, il croisa la concierge, mais ne s'arrêta pas. Quand il arriva dans la rue, il était exactement 9h30. Un homme faisait les 100 pas. Aussitôt qu'il le vit, l'homme vint à lui et lui dit entre les dents « Javel ?»« Parfaitement. » Fit le policier, il ajouta « Où est-il ? » « À l'hôtel qui fait le coin de l'avenue d'Orléans et du boulevard Brune, avec le camarade. Bon, »« Très bien, saute dans un fiacre, va les rejoindre et retenez-le pendant 1 heure. Au besoin, n'hésitez pas à lui mettre la main au collet. Je prends tout sur moi, ne craignez rien, tout va bien. » L'homme partit. Javel monta en voiture, donna l'adresse du commissariat et, rassuré, triomphant, se frotta les mains. Pour l'instant, il n'entrait dans sa joie aucun espoir de gratification ni d'avancement. Il était pris par le seul plaisir du succès, par un plaisir neuf, désintéressé, et se sentait envahi d'un orgueil tel qu'il n'eût pas scellé son secret pour une fortune. En arrivant, il trouva dans l'escalier un camarade qui lui glissa « Monte vite, le patron t'attend. Je crois qu'il va te raconter quelque chose. » Javel haussa les épaules et répondit sans se presser « Ça va, ça va. » Il s'attendait à une réprimande pour avoir quitté son service sans prévenir et sans chercher les ordres. Les événements avaient pris une tournure telle qui n'avait eu ni le temps ni l'idée de prêter la moindre attention à ces détails. Bien plus, il ne lui déplaisait pas d'être mal reçu. Il ménageait ainsi un effet plus certain à la nouvelle qu'il apportait. Aussi, lorsqu'il fut devant son chef, laissa-t-il passer l'orage sans l'arrêter par la moindre protestation. Le commissaire était d'autant plus nerveux qu'un juge d'instruction venait d'être commis pour suivre l'affaire et qu'il allait se trouver dans l'obligation de lui transmettre un commencement d'enquête ridiculement pauvre. Il saisit donc l'occasion de faire retomber sa colère sur quelqu'un. Il était vraiment extraordinaire qu'un inspecteur en prît ainsi à son aise. Qui avait donné à Javel l'autorisation de ne pas revenir ? Il l'avait chargé d'une mission, et Javel se permettait de donner simplement un coup de téléphone. Et si pourtant il avait eu besoin de lui, et il en avait eu besoin. Les autres inspecteurs étaient occupés, et il comptait sur lui, il l'avait attendu jusqu'à 8 heures. Si à ce moment-là il avait eu un homme sous la main, il tiendrait peut-être la bonne piste maintenant. Allez, qu'avait-il à dire à cela ? Quelle explication, quelle excuse pouvait-il donner de son sans-gêne ? Monsieur le commissaire, dit enfin Javel, en choisissant ses mots, vous pensez bien qu'il a fallu un motif grave pour m'empêcher de faire mon service, comme vous désirez qu'il soit fait. Ce motif, le voici. Suivez-moi. Dans moins d'une heure, je vous aurai montré l'assassin du boulevard Lannes et vous n'aurez plus qu'à l'arrêter. Vous voyez que je ne me suis pas amusé cette nuit. Et quant à votre piste, à moins qu'elle n'ait été la même que la mienne, je puis vous garantir qu'elle ne valait rien. Le commissaire l'écoutait bouche bée. La nouvelle lui paraissait tellement invraisemblable qu'il se demandait si l'inspecteur ne se moquait pas de lui et qu'il lui dit, plutôt pour être sûr sans avoir bien entendu que par manque de confiance dans sa perspicacité, « Répétez-moi ce que vous venez de me dire. Je vous répète que je tiens l'assassin du boulevard Lannes et que dans 1 heure, vous le tiendrez vous aussi. Enfin, comment en êtes-vous arrivé ? Écoutez, monsieur le commissaire, Si sûr que je sois de mon fait, il n'y a pas de temps à perdre. Mieux vaut tenir que courir, partons. En route, je vous donnerai tous les détails que vous voudrez. Pour l'instant, je vais vous en fournir un qui n'est ni le moins surprenant ni le moins décisif. L'homme qui a tué le vieux du boulevard Lannes. L'homme que j'ai filé toute la nuit. L'homme qu'un camarade a couché avenue d'Orléans et qu'il garde à 7 heures. L'homme, enfin, que vous allez arrêter de ce pas, se nomme Onésime Coche. « Oh, êtes-vous fou ? » s'écria le commissaire. « Je ne pense pas. » Et quand je vous aurai dit que le bouton de manchette trouvé près du cadavre a son frère jumeau sur la cheminée d'une maison portant le numéro 16 de la rue de Douai, vous reconnaîtrez comme moi qu'il ne sera pas sans intérêt de demander à M. Coche Onésime ce qu'il faisait dans la nuit du 13.